France Inter. Bonjour et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Inter. Prolonger la vie d'un objet technologique, c'est éviter d'en produire un neuf, donc réduire son impact environnemental. Et les chiffres sont parlants. Un téléphone reconditionné, rappelle l'ADEME, permet d'épargner 82 kilos de matières premières, 25 kilos de gaz à effet de serre et 20 000 litres d'eau. L'argument écologique semble donc évident. Et le marché suit. Selon les derniers chiffres, 22% de Français sont équipés d'un smartphone reconditionné. Ils jonglent ainsi avec plusieurs aspirations, consommer de manière éco-responsable, tout en restant tout de même à la pointe de la technologie. Mais le tableau mérite d'être nuancé, car ce marché dépend de la surproduction qu'il prétend corriger. Sans flux permanent de modèles neufs, pas de vivier pour le reconditionnement. Autre paradoxe, ces téléphones même reconditionnés restent prisonniers de l'obsolescence logicielle. Si les mises à jour cessent, l'appareil devient inutilisable, alors même que son matériel fonctionne encore. Alors peut-on parler de durabilité quand le logiciel condamne le matériel? Enfin, la transparence du reconditionnement reste faible. Difficile de savoir d'où viennent les pièces remplacées. Sont-elles neuves ou recyclées? Derrière chaque smartphone reconditionné se cache une chaîne mondiale complexe, souvent opaque. Alors le reconditionné est-il une véritable solution de sobriété ou un simple moyen de prolonger une logique de consommation massive? Est-ce un pas vers la vertu ou une illusion rassurante qui détourne du vrai chantier? Changer l'industrie en amont, produire moins, produire autrement, en bref, penser la technologie à l'échelle de sa chaîne entière. On en débat jusqu'à 12h45 avec nos invités. Et puis avec vous, bien sûr, posez-nous vos questions sur l'application Radio France ou envoyez-nous vos notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000.
France Inter, le débat de midi, Saskia Deville.
Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Benoît Varin. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et secrétaire général de Recommerce Group, entreprise spécialisée dans la reprise, le reconditionnement et la revente de produits électroniques. Bonjour et bienvenue à vous, Philippe de Couetos.
Bonjour.
Vous êtes, vous, directeur des affaires techniques et réglementaires de l'AFNUM, l'Alliance française des industries du numérique. Bienvenue à vous, Grégory Carré.
Bonjour.
Directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir et également avec nous par téléphone, Agnès Crépet, responsable de la longévité des logiciels et de l'informatique chez Fairphone. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Alors Agnès, je ne vous vois pas, mais par contre j'ai trois personnes avec moi en plateau qui ont toutes les trois posé leur téléphone sur la table. Est-ce à chaque fois un smartphone reconditionné? Et je commence avec vous, Grégory Carré.
Non. Non, c'est un téléphone qui a 5-6 ans maintenant, qui commence d'ailleurs à montrer des petits signes de faiblesse. C'est-à-dire qu'il a du mal à finir sa journée en termes d'autonomie. En termes de logiciel, pour l'instant, ça va. Mais, et puis, moi je suis fidèle à une marque par commodité, mais c'est vrai que ça fait déjà, j'en suis peut-être au 4 ou 5e exemplaire. Donc ça veut dire un taux de renouvellement important. Et c'est vrai pour tout le monde, hein, parce que maintenant, le taux d'équipement en smartphone doit être de 91% dans la population. Il n'y a que 10% de derniers résistants, donc 90% de gens qui en ont un, et qui le renouvellent assez régulièrement. Hein, la durée de conservation, d'après les enquêtes qu'on a menées...
Oui, c'est tous les 2-3 ans.
Alors, la durée de vie du produit, ça va être 5 ans, et c'est vrai que si vous achetez un reconditionné, ça va être peut-être un peu moins.
On va en parler, évidemment. Philippe de Couetos.
Donc moi, j'ai un téléphone que j'ai acheté neuf l'année dernière, parce que j'avais gardé mon précédent 5 ans. Donc c'était déjà pas mal. Et j'ai investi dans un téléphone neuf, parce que je sais que je vais le garder encore longtemps.
Très longtemps. Benoît Varin.
Un téléphone reconditionné par ma société Recommerce, bien évidemment. Alors c'est une immobilisation, tous les salariés ont un téléphone, on teste d'ailleurs des logiciels, on teste nos produits. Donc oui, je suis équipé d'un téléphone reconditionné qu'on change tous les 2 ans.
Et Agnès Crépet?
Alors évidemment, j'étais un Fairphone.
Un Fairphone. Alors, de quoi s'agit-il exactement, pour ceux qui ne connaissent pas?
Fairphone, c'est une entreprise néerlandaise qui fait des téléphones qui sont réparables et qui vont durer. Réparables, c'est-à-dire modulaires, et qui vont durer aussi d'un point de vue logiciel. Et ce qui est moins connu de Fairphone, c'est qu'on respecte les gens qui le fabriquent, donc on paye convenablement les gens qui assemblent le téléphone ou les personnes qui minent les minerais dans les mines qui sont bien souvent loin de chez nous.
Voilà, la technologie à l'échelle de sa chaîne entière, on va évidemment en parler dans cette émission. Une première question, hein, qui est finalement le sujet de notre débat, la technologie reconditionnée, est-ce une solution pertinente? Je vais peut-être vous tendre la perche assez facilement. Tout d'abord à vous, Benoît Varin.
Oui, le reconditionnement permet de prolonger la durée de vie du produit. Donc, dans les faits, de garantir un produit plus de 2 ans, puisque les produits reconditionnés sont garantis par des professionnels, comparé à l'occasion grand public. Là, on est sur une garantie et une expérience qui permet de sécuriser le consommateur, puisqu'il y a un vendeur professionnel avec des techniciens, des salariés, qui vont être formés et garantir la qualité du reconditionnement et la qualité du produit qui est acheté par le consommateur. Donc, le terme reconditionné qu'on a créé là ces dernières années permet justement d'améliorer le secteur de l'occasion, le secteur du réemploi, et de dire voilà, on peut avoir un réemploi de qualité grâce à des professionnels, et on souhaite que les professionnels, principalement situés en France ou en Europe, soient reconnus avec des certifications, des labels, et il faut justement acheter plutôt des produits reconditionnés de qualité reconnus par des professionnels.
Donner confiance en quelque sorte aux consommateurs.
Le vrai sujet, c'est donner une confiance aux consommateurs sur les produits reconditionnés, donc principalement les smartphones, hein, qui est un des plus gros marchés du reconditionné. On a plus de 4 millions de smartphones vendus en France en 2024. Et en Europe, ça augmente aussi énormément. Et les consommateurs ont comme premier frein de se dire qui est le vendeur ? Est-ce que le produit va bien fonctionner? Et puis effectivement, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme reconditionné qui reste encore un sujet à construire, à structurer, parce que la définition même de reconditionné ne veut pas dire la même chose en Europe et en France.
On peut parler de marché florissant.
C'est un marché en pleine croissance, hein, nous Recommerce. Quand on a commencé en 2009, il y avait à peu près 2% de gens qui achetaient, on disait, du recyclé. Et maintenant, on est vraiment à 22-25% de gens, même jusqu'à un tiers de la population, qui se dit prêt à acheter un produit, un smartphone reconditionné.
Prêt, mais qui ne le fait peut-être pas encore, Grégory Carré.
Alors, on est dans un secteur où, pour l'instant, le reconditionné ou la seconde main reste assez marginal. Hein. Je pense qu'on est un peu plus de 20% de produits achetés chaque année qui sont des produits de seconde main et 80% qui sont des produits neufs. On prend un autre secteur où c'est complètement l'inverse. Vous regardez l'automobile. L'automobile, c'est 95% de véhicules achetés qui sont des véhicules d'occasion. Après, le terme de la seconde main, il marche bien parce que j'ai même vu que des constructeurs automobiles parlent de véhicules reconditionnés dorénavant. Donc le terme, peut avoir un certain argument. Maintenant, quand on regarde la population qui achète des reconditionnés, c'est plus les jeunes.
C'est vrai que ça ne concerne pas tous les Français de manière égale.
C'est plus les jeunes parce qu'ils renouvellent plus souvent et qu'ils ont un portefeuille quand même plus restreint, et c'est plus les ménages modestes. Donc on voit quand même que l'argument prix est l'argument numéro un du reconditionné avant l'argument écologique, qui lui peut exister, hein, parce que si on demande aux gens qu'est-ce que vous avez fait de votre précédent smartphone, alors en amont ils vous ont dit j'ai changé parce qu'il était en panne, puis après ils vous ont dit en fait bon il n'était pas en panne mais je le garde. Voilà, donc il y a la moitié des smartphones qui sont en train de dormir dans les placards, qui pourraient être peut-être recyclés, mais je pense, alors vous êtes plus spécialiste que moi, je pense que le reconditionné la seconde main, ça concerne quand même que les produits haut de gamme. Nous, on a réalisé un certain nombre de tests hein, sur les plateformes de reconditionnement. C'était des téléphones quand même vendus à plus de 500 euros. Vous avez une offre neuve qui peut être déjà, en termes de prix, plus compétitive à ce niveau-là. Donc, on voit que le marché va être un petit peu limité encore pour le reconditionné du smartphone.
Est-ce que le reconditionné pousse à la consommation? C'est une vraie question, ça, Philippe de Couetos.
La consommation, en fait, elle est assez stable. Hein, si on parle de smartphone, en fait, elle est même en décroissance en France, parce que les gens gardent leur smartphone plus longtemps. Donc, c'est en moyenne de 3 ans aujourd'hui.
C'est longtemps, donc, 3 ans.
C'est peut-être pas assez longtemps encore. Hein. Ça va encore, je pense, augmenter sous l'effet de des nouveaux produits qui sont de plus en plus solides, de plus en plus durables. Donc on a bon espoir que ça augmente, qu'il y a des efforts qui ont été faits par les fabricants notamment. La réglementation européenne aussi qui impose des exigences minimales pour l'entrée sur le marché européen en termes de qualité des produits, et donc notamment des smartphones depuis le 20 juin dernier. On va avoir les résultats en fait de ces efforts pour qu'on garde effectivement les smartphones plus longtemps. Donc le reconditionné se développe et les fabricants eux-mêmes maintenant vendent leur matériel aussi en reconditionné. Voilà. Par contre, voilà, si le développement a été assez rapide ces dernières années, on voit quand même une sorte de tassement aujourd'hui, parce qu'il y a quand même, on pourra l'évoquer, hein, des freins qui sont quelques freins qui sont levables rapidement, et des freins structurels aussi qui feront que, à mon sens, on n'arrivera pas à 100% de marché du reconditionné.
Agnès Crépel, la baisse de prix des produits reconditionnés, est-ce que c'est une bonne chose ?
Alors, ce qui est bien dans le reconditionné, de toute façon, c'est que ça va entraîner un allongement de la durée de vie du téléphone, et notamment par le fait que le prix est plus bas. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, la limite à ça, c'est est-ce que c'est vraiment allonger la durée de vie des téléphones que de prendre du reconditionné ? C'est un petit peu ce qui a été évoqué par mes prédécesseurs. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est sûr que les produits qu'on va acheter sur le marché du reconditionné vont durer ? Et jusqu'à présent, ça a déjà été dit, on n'est pas sûr de ça. Alors heureusement, on a des étiquettes qui arrivent, on a des labels qui vont permettre aux consommateurs d'avoir plus d'informations. Mais aujourd'hui, en fait, tous les appareils qui sont sur le marché, même en reconditionné, ne vont pas forcément durer. Et là est le problème.
Et on va continuer à en parler sur France Inter dans ce débat autour de ce thème. La technologie reconditionnée est-elle plus vertueuse ? Il est midi 15. Je vous propose une pause musicale avec ce titre « Où vont les larmes ?» de Mira sur France Inter. Les larmes, Mira à midi 18 sur France Inter.
France Inter, le débat de midi.
Reconditionnement veut-il dire forcément longévité ? On va en parler dans la technologie ici avec nos invités. Benoît Varin, cofondateur et secrétaire général de Recommerce Group. Philippe de Couetos, directeur des affaires techniques et réglementaires de l'Alliance française des industries du numérique, l'AFNUM. Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir. Et par téléphone, Agnès Crépet, responsable de la longévité des logiciels et de l'informatique chez Fairphone. smartphones. Et puis un cinquième invité qui va venir nous rejoindre quelques minutes par téléphone, c'est Michel Memeteau, directeur général d'Ekimia, société de reconditionnement basée à Marseille. Et puis vous aussi qui nous écoutez, notamment Fabienne qui nous écrit ceci. Je profite de votre émission pour dire mon dépit de ne plus avoir accès à l'application Radio France dans la mesure où mon téléphone iPhone 7 acheté reconditionné il y a 3 ans ne me permet pas de charger l'appli. Ou encore Willy qui nous écrit ceci. Reconditionner les téléphones portables, c'est très bien, mais il faudrait également que les fabricants de téléphones neufs décident volontairement d'abaisser le niveau technologique de chaque appareil. Je pense que Michel Memeteau, bonjour et bienvenue, vous avez votre avis sur la question.
Oui, bonjour et merci de votre invitation et de votre débat de qualité. Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien, je vous
parfait,
écoute.
Parfait.
On parlait de reconditionnement, de longévité de ces smartphones effectivement reconditionnés qui, au bout d'un certain temps, ne permettent plus le fonctionnement normal de l'appareil alors que l'appareil en soi
exactement.
Fonctionne.
Exactement. Donc, effectivement, nous, on reconditionne depuis plusieurs années des smartphones de différentes marques. Et donc, on a établi en fait une petite marque de smartphones qui sont obsolètes sur l'aspect logiciel très rapidement. On peut citer des marques, je pense, hein, notamment Apple, Asus, Huawei, qui font que, une fois que ce smartphone a atteint la durée de mise à jour fixée par le fabricant, eh bien, il n'y a plus de solution pour pouvoir l'utiliser correctement. Hein, c'est ce que disait votre auditrice sur la compatibilité des applications. Donc nous, on a sélectionné en fait des marques telles que Fairphone, évidemment, Google et OnePlus, qui nous permettent de réinstaller nous-mêmes un nouveau logiciel Android à jour et donc de prolonger de plus de 10 ans les mises à jour, en fait, contrairement au constructeur qui souvent va se limiter à 3 ou 7 ans, hein, suivant les marques. Donc on peut estimer qu'il y a environ la moitié des téléphones qui sont débloquables, à peu près, et donc qui permettent d'installer notre propre logiciel et donc de promouvoir, de continuer effectivement que le téléphone puisse être utilisable.
Et qu'en est-il des autres modèles de smartphones ?
Vous voulez dire les tels qu'Apple, Huawei, etc., qui sont bloqués, c'est des téléphones qui restent dans des tiroirs, malheureusement. Hein. On peut citer l'iPhone 5, par exemple, qui n'a plus de mise à jour depuis plusieurs années, qui est condamné à rester dans un tiroir alors que le matériel est encore très performant. Et si Apple nous autorisait à installer notre logiciel sur ce smartphone, on pourrait continuer à le vendre et à l'utiliser. Et donc, nous, on aimerait que l'Union européenne interdise en fait les smartphones qui ne sont pas débloquables, puisque c'est des appareils qui sont destinés de toute façon à être obsolètes. Je pense qu'il faut faire l'analogie avec la voiture. Vous accepteriez pas qu'au bout de 7 ans, votre voiture refuse de prendre certaines autoroutes. Une voiture, vous devez pouvoir l'utiliser jusqu'à temps qu'elle ait un problème mécanique ou autre. Mais voilà, le logiciel, c'est vraiment un aspect très important du reconditionnement. Et il faut faire pression, effectivement, sur les fabricants pour que ces blocages puissent un jour sauter. Ouais.
Est-ce que ce serait possible, ça, Philippe de Couetos, je rappelle, vous êtes directeur des affaires techniques et réglementaires de l'AFNUM, donc l'Alliance française des industries du numérique, ce serait possible d'interdire le blocage de ces logiciels pour permettre justement leur reconditionnement par la suite ?
Je ne sais pas si c'est souhaitable, en tout cas, parce que il y a clairement, dans ce que vient de dire l'intervenant,
Michel Memeteau.
Michel Memeteau, une concurrence qui s'exerce et voilà, comme ça a été dit, certaines marques de smartphones sont débloquables, d'autres non. Donc ça permet aussi au consommateur de faire son choix aussi par rapport à ça. La bonne nouvelle quand même, c'est que le règlement européen qui est rentré en application le 20 juin dernier, que j'ai déjà évoqué, oblige des mises à jour pendant 5 ans des smartphones, des systèmes d'exploitation. Donc ça c'est déjà en cours et certains fabricants ont annoncé 7 ans ou même plus. Donc là on va résoudre aussi ce problème assez rapidement.
Vous, comment vous gérez cela, Agnès Crépin, vous qui fabriquez donc chez Fairphone de nouveaux appareils, comment est-ce que vous gérez cette question-là et puis que pensez, je pense que vous avez un avis aussi sur cette décision de la Commission européenne qui date du mois de juin.
Oui. Alors, je rejoins l'intervenant, donc Michel qui vient de parler, si je ne me trompe pas sur son prénom.
Michel Memoto.
Michel Memoto, voilà. Donc, on est bien en phase sur le fait de dire que cet aspect logiciel, c'est souvent l'enfant pauvre, c'est quelque chose de mal compris. On se rend compte effectivement de l'obsolescence logicielle quand vous avez ce qui se passe dans une application qui ne veut pas être installée, comme l'auditrice l'a dit. Mais c'est compliqué à comprendre. Et c'est vrai que ça devrait être la responsabilité des fabricants de faire en sorte d'avoir ce déblocage dont parlait Michel, et faire en sorte de laisser à un réparateur, à un distributeur, à un utilisateur final d'installer ce qu'il veut comme logiciel.
C'est le cas chez Fairphone, on peut installer ce qu'on veut.
On vous installe ce qu'on veut. On a vraiment mis en place une procédure très facilitée pour installer un logiciel qui va durer. On travaille avec une coopérative, par exemple Common, qui travaille sur l'économie de la fonctionnalité. J'y reviendrai. Hein, vous louez votre téléphone plutôt que de l'acheter. Et eux, par exemple, sur le Fairphone 2, un téléphone qui est sorti il y a déjà longtemps, en 2015, ils ont prolongé de 2 ans la durée de ce téléphone en installant un système open source. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont possibles quand le fabricant le veut bien. Et moi, aujourd'hui, je vois aucune raison, à part une raison business, model, de ne pas faire ça, en fait. Et c'est vraiment notre approche chez Fairphone. Chez Fairphone, on veut faire en sorte, on veut craquer l'obsolescence et faire en sorte de montrer que c'est possible de faire des choses qui durent. Comme votre machine à laver. Il ne vous viendrait pas de changer votre machine à laver tous les 3 ans. J'espère que ce ne sera pas le cas. Votre téléphone, ça devrait être pareil. Il y a énormément de pièces dans un téléphone qui peuvent durer. Un vibrateur, ça peut durer 15 ans, quoi.
Philippe de Couetos.
Je pense qu'il faut aussi distinguer l'obsolescence logicielle du système d'exploitation et l'obsolescence de l'application. On a parlé de l'exemple, par exemple, de l'application Radio France sur un vieil iPhone. Ça peut aussi être du fait que l'éditeur de l'application, notamment Radio France, n'est pas continué à développer, à mettre à jour son application pour les anciennes versions des systèmes d'exploitation. Parce que, en fait, la difficulté aussi pour les éditeurs, c'est qu'ils doivent préparer des applications pour chaque version. Et ça a un coût, évidemment, pour eux, de mettre à jour toutes ces versions-là. Donc, certains se disent, je vais arrêter, je ne vais plus mettre à jour mon application à partir de la version 10, par exemple. Et donc, là, on se retrouve dans un cas d'obsolescence logicielle, pas du fait du fabricant, mais du fait de l'éditeur de l'application.
Et ça, c'est une vraie question. Effectivement, il y a aussi la question de la qualité du reconditionnement qui revient beaucoup dans les messages de nos auditeurs, de nos auditrices. Bonjour, nous dit Jean Muret, j'ai acheté un smartphone reconditionné dans une entreprise de Marseille. Après 14 mois d'utilisation, le téléphone est inutilisable à la suite d'une panne d'écran. C'est de l'arnaque et je ne recommande pas le reconditionner. Il y a effectivement beaucoup cet aspect-là qui revient, la qualité du reconditionnement. Tous les reconditionneurs se valent-ils? Et je me tourne vers vous, Grégory Carré.
Alors, on a réalisé un test à petite échelle. On a acheté 18 modèles chez des reconditionneurs. On a pris vraiment des reconditionneurs. On a pris les sites qui ont pignon sur rue. On a acheté quand même des appareils assez haut de gamme. On était sur un ticket d'entrée à plus de 500 euros. Donc, vous avez quand même des modèles neufs hein, qui sont dans ces gammes de prix. Et ce qu'on a constaté, c'est que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. On a eu effectivement quelques soucis sur quelques modèles. Alors, la plupart des modèles...
Et c'est dû à quoi ?
Alors, le premier souci, c'est des problèmes de mise à jour. Effectivement, il y a des logiciels qu'on n'a pas réussi à faire la mise à jour.
On en a déjà parlé.
Oui. Certains, c'était la provenance qui n'était pas bien sourcée, c'est-à-dire que c'était des modèles qui venaient des États-Unis. Et ça peut créer des soucis parce qu'il n'y a pas forcément une comptabilité parfaite et ce n'était pas clairement annoncé. Il y a un modèle... Alors
et en quoi c'est un problème que les appareils viennent des États-Unis?
C'est des problèmes de compatibilité de mise à jour. Il y a des mises à jour qui ne sont pas forcément acceptées. On retombe encore sur la même problématique. On a un ou deux modèles qui ont eu un vrai problème d'autonomie. Alors là, c'est-à-dire que l'autonomie promise, elle n'était pas celle qu'on a mesurée, nous. Donc le modèle, quand vous avez une autonomie qui est inférieure à 7 heures, c'est un souci parce que vous partez le matin, vous ne finissez pas la journée avec. Des soucis d'équipement, des recharges qui n'étaient pas forcément compatibles ou qui n'étaient pas d'origine ou qui n'étaient pas bien sourcées, etc. Alors, voilà, on a eu quelques surprises. Dans l'ensemble, c'était bon, mais on a eu des mauvaises surprises. Et donc, je comprends que ce soit extrêmement désagréable parce qu'on parle quand même de tickets d'entrée à 500 euros. Et surtout, il y a des enseignes qui ont pourtant pignon sur rue sur lesquelles on a eu des modèles très bien et des modèles moins bien. Voilà, donc on n'a pas eu tout le temps le bon tirage. Voilà, alors on est sur 18 modèles, c'est assez limité, mais j'imagine que quand vous achetez un modèle à 500 euros, Sachant que l'argument numéro un, c'est quand même un argument de prix hein, pour les gens. C'est souvent un enfant qui va vous demander un iPhone d'une marque très très chère. Vous dites, c'est quand même limite un salaire mensuel au SMIC qu'il faut payer. Ben,
le reconditionner. C'est plus la question du coût que la question écologique
pour le choix,
qui revient
oui,
en premier.
Oui. Pour le choix. D'ailleurs, je pense qu'avec le contexte qui est quand même très compliqué pour les ménages, hein, on est vraiment sur une vraie problématique de pouvoir d'achat. On voit bien que le reconditionner à une seconde vie, beaucoup plus dans d'autres domaines hein, que voilà, dans l'automobile, les ventes neuves s'effondrent. Et la seconde, et les voitures d'occasion se maintiennent. Dans la textile, la seconde main est un vrai débouché. Pour le smartphone, ça plafonne un peu quand même, on est à 20%. Ça veut dire qu'il y a des marges de progrès énormes. Et là, le reconditionner peut être une des réponses, mais elle n'est pas encore suffisante. Je pense qu'au niveau des professionnels, on l'a dit, au niveau des logiciels, il va falloir quand même limiter ce déblocage. On parlait des smartphones, vous savez, on a tous oublié nos tablettes.
Mais limiter ce blocage, vous voulez dire.
Moi, j'ai ressorti une tablette, là, il n'y a pas longtemps, qui marche parfaitement, l'écran est parfait. Vous ne pouvez plus rien faire, effectivement. Donc, c'est un matériel qui est bon pour la casse et c'est quand même assez dommage.
On parle de traçabilité de ces smartphones qui viennent de l'étranger, peut-être aussi d'un modèle économique qui repose sur l'existence du neuf, sur la surconsommation. On va continuer à en parler et je vous vois lever les yeux au ciel. Benoît Varin, donc cofondateur et secrétaire général de Recommerce Group. Hein. On va continuer ce débat, je vous rassure. Il est 12h30 sur France Inter. Une pause musicale avec ce titre « Nueva Yol » de Bad Bunny.
Nueva York. Si te quieres divertir. Otra vez lo sacamos al estadio. Tiene piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba.
Nueva Yol de Bad Bunny à 12h33 sur France Inter.
Le débat de midi, Saskia Deville sur France Inter.
Et ce débat avec vous qui nous écoutez, comme Isabelle qui nous écrit ceci, j'ai failli faire l'achat d'un smartphone sur Back Market. J'ai finalement annulé ma commande lorsque j'ai appris que le produit allait venir d'un pays de l'Est. Ce n'est pas très vertueux. D'où viennent les smartphones qui sont reconditionnés? D'où viennent aussi les pièces de rechange qui servent à réparer ces téléphones? Benoît Varin, quel cas, comment ça fonctionne chez Recommerce Group?
Chez Recommerce Group, nous sommes le spécialiste du rachat de produits usagés auprès des particuliers français, où on passe surtout par les opérateurs télécoms comme Bouygues Télécom, Orange, à qui vous pouvez revendre votre ancien téléphone. Et nous, on va racheter ce produit-là, on va le rapatrier sur une usine, on va le tester, on va le faire réparer, récupérer les pièces détachées et le revendre reconditionné, garantie 2 ans, en France et en Europe, puisqu'on est basé dans 24 pays Recommerce, on est 270 salariés, entreprise 100% française, et on garantit nos produits. Avec aussi des pièces détachées marquées CE, donc conformité européenne. Les batteries, les produits doivent être marqués CE. Donc ça, on peut le voir. N'importe qui peut voir un produit électronique et regarder derrière s'il est bien marqué CE. C'est des produits aussi qui vont être contrôlés par des professionnels formés, diplômés, situés en France et en Europe. Et là, on va avoir des produits d'origine française ou européenne faits pour le marché français et européen, comparé à d'autres acteurs qui vont vendre sur des marketplaces, qui peuvent venir d'Asie, qui peuvent venir des États-Unis avec des problèmes justement de défaillance, des défaillances des logiciels, de défaillance des pièces détachées, de défaillance même de la formation des techniciens, parce qu'il n'y a pas de transparence et de reconnaissance de la qualité des produits. Donc c'est là où nous on appelle la France et l'Europe à valoriser un label, le label REC ou un autre label, reconditionnement de qualité, le label REC, avec une vérification par un organisme tiers indépendant comme un contrôle technique automobile pour permettre de garantir que le produit a bien été reconditionné selon des critères précis. Et actuellement, quand vous achetez un smartphone, quand vous ne connaissez pas l'origine, quand vous ne l'avez pas acheté chez un opérateur télécom comme Bouygues Télécom ou chez Recommerce.com, et ben vous n'allez pas savoir si le produit, sur une marketplace par exemple, d'où il vient. Et là, votre auditrice a tout à fait raison. Donc, faut plutôt regarder est-ce que le vendeur est bien basé en France ou en Europe? Est-ce qu'il a des certifications? Est-ce que on a des reconnaissances externes? Et puis, les avis clients, c'est aussi le premier point à regarder.
Et cette transparence, cette traçabilité des pièces qui composent notamment vos nouveaux smartphones, Agnès Crépet, je rappelle, vous êtes responsable de la longévité des logiciels et de l'informatique chez Fairphone. C'est aussi un fait.
Disons qu'on trace même au niveau des métaux, en fait, ce qu'on a dans nos téléphones. C'est ça l'ambition de Fairphone, c'est d'essayer de lever un peu l'opacité sur ces chaînes d'approvisionnement. Et ça concerne la première couche, quelque part, sur cette chaîne d'approvisionnement, c'est les métaux. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire chez Fairphone pour essayer de rendre toute l'industrie électronique plus vertueuse.
Vous pouvez nous faire peut-être un petit point, Agnès, sur justement le problème avec les minerais et ce qui se passe dans les mines.
Oui.
Vous êtes très engagée sur le sujet, c'est pour ça que je me permets de vous lancer là-dessus.
Oui, c'est vrai. Si vous voulez, un des gros soucis sur l'extraction des minerais, c'est le fait que ça se passe bien souvent loin de chez nous. Pour plusieurs raisons, parce que parfois ces minerais ne sont pas ailleurs. Si je prends l'exemple du cobalt, il y a beaucoup de cobalt en République démocratique du Congo et moins en Europe. Et dans ces pays-là, en fait, l'extraction de ces minerais engendre des conflits armés. Les conflits armés vont perdurer du fait de cette extraction qui va être bien souvent mafieuse et les conditions de vie et de travail des gens qui
sont désastreuses,
sont très mauvaises, voilà. Et ça va même engendrer des conflits. On parle même de la grande guerre africaine en RDC. Enfin voilà. Et ces problématiques sociétales, on en parle quand même peu.
Mais donc finalement, faire des smartphones green ou des logiciels green, on va dire, ça sert à quelque chose?
Alors. Chez Fairphone, c'est vrai qu'on a cet aspect d'aller aussi travailler dans les mines, mais si jamais on parle juste du côté longévité, du fait d'avoir des téléphones qui durent plus longtemps, c'est de toute façon plus vertueux, parce que ça vous permettra de produire moins de téléphones. Si votre téléphone va durer 10 ans, vous n'allez pas en racheter 2 ou 3 pendant cette durée. Donc, si on arrive à stabiliser ce marché-là et à faire en sorte que les gens achètent moins, parce que c'est tout aussi le piège, j'en ai pas parlé, mais c'est tout le piège du reconditionné, l'effet rebond. C'est-à-dire qu'en fait, on va être tenté par le prix bas ou potentiellement le mirage écologique de se dire « tiens, je vais acheter un téléphone reconditionné » et on va le faire potentiellement tous les 2 ans. Ce qui,
donc ça va pousser
au final,
à la consommation en quelque sorte. Et ça ne va pas régler le problème des mines.
Bien souvent, ça ne va pas régler le problème des minerais, le problème entier.
Voilà, il n'y a pas d'autres solutions, d'autres alternatives à ces minerais.
Exactement. Il y a certains minerais qu'on ne peut pas changer par d'autres minerais. Ça, c'est peut-être que dans 100 ans, ce sera possible. Mais aujourd'hui, on en est encore loin. On a encore besoin de beaucoup de minerais qui posent problème.
Benoît Varin, vous voulez réagir.
Oui, il y a quand même 400 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs. Et c'est aussi des minerais potentiellement à aller chercher. Et donc, nous, ce qu'on invite à faire, c'est aussi faire sortir les téléphones des tiroirs pour voir les réparer, les reconditionner et les réutiliser.
Mais est-ce qu'ils sont aussi simples à extraire ces minerais? Parce que je pense qu'ils sont présents, certes, à l'échelle de la production en grande quantité, mais au sein même d'un téléphone, c'est une infime partie, c'est très difficile à aller chercher.
Oui, la première chose à faire, c'est d'aller chercher déjà les produits qui fonctionneraient encore et qui peuvent être réutilisables dans les tiroirs des Français et des Européens, donc qui permettent d'éviter de produire du neuf. Et la deuxième étape, c'est effectivement ces produits-là qui ne servent pas, on peut récupérer les métaux précieux, pour les réinjecter dans des filières de production de produits neufs. Et là, à Fécamp, en Normandie, existe une usine qui recycle les métaux de nos téléphones qu'on ne va pas pouvoir réparer.
Agnès Crépet.
Oui, on est vraiment pour, chez Fairphone, arriver à faire plus de recyclage, mais aujourd'hui, le recyclage, c'est compliqué. Au niveau des métaux, notamment des alliages de métaux. Pensez à votre gâteau. Vous mélangez des œufs et de la farine et du beurre. Vous chauffez tout ça. Essayez d'aller récupérer le beurre ou la farine après la chauffe. Donc, c'est très compliqué. Il y a des chercheurs qui travaillent sur le sujet, mais on est loin de pouvoir tout recycler. Ça, c'est vraiment la première chose à garder en tête. Et c'est pour ça que, bien souvent, le recyclage des composants plutôt que des minerais peut être plus bénéfique. On récupère une caméra, on récupère un écran et on essaye de le réintégrer dans un téléphone. En ce sens, le reconditionnement peut être intéressant. Nous, on le fait chez Fairphone. Hein, notre Fairphone 4, on l'a reconditionné. On propose même une garantie de 5 ans. Voilà. Et en reconditionnant aussi les pièces elles-mêmes. Ça, c'est aussi important. Donc, ça existe, mais c'est vraiment compliqué au niveau des minerais. Et on revient à notre discussion du début de la session. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que le fabricant ait des pièces disponibles sur le long terme, au-delà du support logiciel. Parfois, ce n'est pas le cas. Alors, la direction européenne va changer des choses, mais ailleurs dans le monde, vous avez encore des téléphones qui ne vont plus avoir de pièces détachées au bout de 3 à 4 ans.
Même si le vrai problème pour la réparation, c'est le prix. Parce qu'en fait, actuellement, on a une concurrence déloyale de produits qui viennent d'ailleurs, qui font que les prix baissent et on n'a pas les moyens de réparer. Et ça, c'est vraiment le vrai problème, c'est comment en France, on industrialise, on réindustrialise l'économie pour avoir des moyens face à des produits qui vont pas respecter la réglementation fiscale, la réglementation technique et avec des fraudes massives sur les marketplaces ou sur les plateformes parce que vous avez des acteurs situés en Asie qui vont vendre moins cher que nos produits reconditionnés en France et du coup on n'a pas les moyens de réparer comme vous le disiez juste avant, de réparer des pièces détachées, de prolonger plus la durée de vie parce qu'il faut être très performant et les marges sont très compliquées à obtenir parce que on a une concurrence déloyale très forte sur les marketplaces et les plateformes.
Je vais me tourner vers vous, évidemment, Philippe de Couetos, avec cette question, ou en tout cas cette remarque soulevée il y a un instant par Agnès Crépet, ce manque de pièces de rechange chez les fabricants qui
je crois que
un grand
Agnès
problème.
Agnès a déjà donné une partie de la réponse, puisque ce règlement du 20 juin, en fait, il oblige les fabricants à mettre sur le marché pendant au moins 7 ans des pièces détachées de leur équipement. Donc ces pièces détachées-là, elles vont être plus sur le marché, ça va permettre de reconditionner plus d'équipements, ça va aussi permettre de réparer plus d'équipements, parce que c'est aussi un des freins, paradoxalement, au reconditionnement, c'est la réparation.
Et réparation qui devient... Effectivement, j'ai un chiffre ici, un dispositif créé par la loi anti-gaspillage en 2020, ce bonus de réparation de l'État, ce sont des chèques allant de 15 à 45 euros qui permettent aux consommateurs de financer une partie de la réparation. À ce jour, à peine 15% des consommateurs font réparer leur téléphone.
Oui, et il y a déjà eu quand même 1,4 million de réparations en 2 ans qui ont utilisé ce bonus réparation. Le bonus réparation, c'est donc un chèque qui est fait aux foyers qui vont faire réparer leur équipement pour diminuer le prix de la réparation. Donc on a une incitation financière à réparer maintenant. On va avoir une meilleure aussi auto-réparation.
Mais 15 euros, ça correspond à quoi pour remplacer
Alors, c'est 25 euros sur les smartphones, par exemple. 25 euros sur les smartphones. Si vous avez une facture, la facture moyenne, elle est autour de 90-100 euros. Ça fait quand même un quart du prix, en fait.
Et pourquoi il n'y a pas plus de réparation dans ce cas ?
il va y avoir plus de réparations grâce à ce bonus qui n'est pas encore assez connu. Donc j'en profite pour en faire la publicité. Il n'est pas encore assez connu des Français. Mais donc il faut qu'ils aillent chez un réparateur agréé, Cali Répare. Il y en a de plus en plus. Même les grandes marques maintenant aussi, leur atelier de réparation sont agréés Cali Répare. Donc ça va permettre de développer le réflexe réparation. Donc le consommateur, s'il répare plus son équipement, il peut aussi être incité à moins acheter de reconditionné, à acheter d'abord du neuf, parce qu'il sait qu'il va le garder plus longtemps, il va le réparer peut-être certaines fois lui-même. Et donc ça peut avoir aussi un effet un peu contraire au développement du reconditionné. Mais globalement, c'est quand même
complémentaire,
et c'est l'environnement qui gagne, parce que ce réflexe réparation, ça va permettre d'allonger la durée de vie du produit de cette manière.
C'est comme l'automobile. Hein. L'automobile, c'est construit comme ça. Hein. Vous avez la possibilité de faire soit réparer votre voiture, soit la revendre, soit acheter une voiture d'occasion. Donc là, on se rend compte que le marché du smartphone ou de l'électronique ou les biens de grande consommation sont en train de rejoindre, comme vous le disiez tout à l'heure, le marché de l'automobile. Et on invite, nous, les consommateurs, à demander à leurs distributeurs des grandes enseignes d'intégrer tous ces services-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire, nous, Recommerce, en proposant le rachat de produits usagés, la revente de produits, et puis des services associés, la réparation, la location. Donc ça, c'est les grands... on espère que c'est l'économie circulaire qu'on est en train de construire, qu'on doit construire ensemble pour permettre de prolonger la durée de vie des produits et donc, du coup, de lutter contre le réchauffement climatique. Parce que c'est comme la production de neuf qui va émettre le plus
reste
de gaz à effet de serre.
Effectivement, le problème de base. Alors, dernière question rapide et un tour de table en un mot. Mon téléphone ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je fais? J'achète un neuf, j'achète un smartphone green. Je diminue la production, je garde mon téléphone le plus longtemps possible. Je fais réparer par des sociétés locales avec des pièces de seconde main locales tout en limitant le changement de pièces. C'est ça la solution?
Vous allez voir un professionnel, un opérateur télécom, votre opérateur, vous lui demandez quoi en faire, il va faire un diagnostic, il va vous dire je vous le rachète, je vous propose de le réparer ou je vous revends à reconditionner. Donc allez voir
un
opérateur.
Merci Benoît. Pour vous, Philippe de Poitou,
j'essaie de le faire réparer d'abord pour qu'il dure plus longtemps.
Grégoire Carré.
J'achète un magazine et je lis un magazine papier comme ça pour découvrir le charme de l'ancien. Non,
genre un certain magazine type c'est que magazine, choisir par exemple.
On a testé d'ailleurs bonus hasard. Réparation textile là, qui était compliqué.
Et
aussi.
Agnès Crépé pour vous.
Donc moi, je ferai durer mon appareil le plus longtemps possible. Et si vraiment il n'y a pas d'option pour le réparer, je prendrai un Fairphone, évidemment.
Merci à tous pour ce débat de midi. Merci Benoît Varin, Grégory Carré, Philippe de Couetos, Agnès Crépé. Et merci aussi à Michel Memeto qui était avec nous. Merci à toute l'équipe du débat de midi, Aurore Mansip et Louise Morfoise à la programmation, à nos stagiaires Anaë Balista et Ryan Saibi. Notre documentaliste Sophie Cheblin, une programmation musicale de Djouba. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Achille Aknin.